top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h39 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Mon invité est énervé. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tous les jours, il est énervé, en tout cas très remonté. Nous allons donc lui demander son secret de beauté, car force est d'admettre que ça maintient journalistiquement en forme l'énervement. Non, non, on va pas parler anti-rides, ni coiffure, ni teinture.
On pourrait.
26 ans qu'il décortique le discours médiatique, qu'il cogne et qu'il critique. Reste à savoir quelle place pour ce journalisme-là, à l'heure où le grand public a parfait sa culture de l'image, où la moindre tromperie télévisuelle s'avère démontée sur Twitter en temps réel, ou enfin l'analyse des ficelles de la communication, de la mise en scène médiatique donc, est devenue la question la mieux partagée du monde, ressassée jusqu'à saturation. Daniel Schneiderman sert-il encore à quelque chose ?
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Bonjour à vous, mon général.
Bonjour.
Je dis mon général parce que Nicolas Demand, ancien patron de Libé, est venu vous saluer en disant bonjour, mon général. Comme ça, ça met les choses à leur place.
J'ai pas su comment interpréter.
Non, c'est vrai.
Non. Bon. Je n'y vaut mieux pas d'ailleurs.
Votre chronique hebdomadaire dans Libération, c'est chaque lundi matin sur le papier, le dimanche soir sur le site. Votre site d'info Arrêt sur Image, nouvelle version depuis quelques jours, depuis 15 jours, beaucoup plus lisible, on va dire, plus aéré, plus.
Ah bah c'est à vous de le dire. Hein.
Oui, plus navigable. Alors je le dis.
Je suis pas objectif.
Plus navigable, plus...
Disons que, voilà, non, ça fait 10 ans, hein, sur Image, sur Internet. Ça fait 10 ans qu'on a été viré de la télé, donc ça fait 10 ans qu'on a trouvé une sorte d'asile médiatique sur Internet, donc on voulait marquer le coup des 10 ans. Bon, la première version du site, c'était quand même une version solide, hein, quand même durée 10 ans. En informatique, c'est pas mal. On va dire que on l'avait faite un peu à l'arrache dans l'affolement en 2007-2008. Et on va dire que c'était un tout petit peu une version, comment dire, hard discount, quoi. Enfin, il y avait l'essentiel, mais fallait aller piocher dans les cartons. Voilà. Bon, on a souhaité faire une version un peu plus cosy, un peu plus lisible.
On va en parler, puisque de toute façon...
un peu plus de plaisir à nos abonnés.
Il faut aussi que vous vous inscriviez face à une concurrence qui s'est démultipliée en matière de critique des médias ou d'analyse du discours médiatique, y compris sur Internet. On va en reparler, Daniel Schneiderman.
Je sens que vous avez un angle pour cette interview.
Ah,
j'ai l'impression que vous avez un angle.
On va en parler justement. D'abord, si vous me permettez, on va prendre au téléphone Tristan Walex, journaliste à la rédaction de France 2, prix Albert Londres l'année dernière pour son portrait enquête intitulé « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ». Bonjour Tristan.
Bonjour Sonia.
Bonjour à vous, soyez le bienvenu dans l'Instant M. Ce jeudi 25 janvier, c'est-à-dire demain, s'ouvre un procès contre 3 journaux, Mediapart, L'Obs, Le Point et 2 ONG que sont Sherpa et React, attaqués en diffamation par une société dans laquelle siège Vincent Bolloré, il siège au conseil d'administration. Vous faites paraître, la tribune est apparue il y a exactement une demi-heure à 9h sur plusieurs sites d'info, une tribune signée de tous les journalistes et de toutes les ONG qui ont été traînés en justice par Vincent Bolloré. Et vous pointez les méthodes de l'homme d'affaires, qui est par ailleurs patron de médias, puisque c'est le propriétaire de Canal+ et de sa chaîne d'info CNews, également de journaux gratuits. Vous mettez en lumière son procédé que vous qualifiez d'entrave à l'enquête et d'entrave à la liberté d'informer.
Oui, effectivement, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas contre le fait qu'il y ait un encadrement de la liberté de la presse. Moi, à titre personnel, je trouve ça tout à fait normal que Vincent Bolloré, s'il s'estime diffamé, puisse saisir un tribunal pour obtenir éventuellement réparation. Mais là, ce qu'il y a de singulier avec Vincent Bolloré, c'est qu'il abuse, à notre sens, de cette loi sur la liberté de la presse. Et en fait, il y a une instrumentalisation de la justice, on le voit par le nombre de procédures. Si on prend en compte à la fois les procédures de Bolloré et de ses partenaires commerciaux, que sont la SOCAPA, mais et la Socfin, en Afrique, on est à plus de 20 procédures en 9 ans et à plus de 50 personnes visées. 50 personnes visées, ce sont des journalistes, ce sont des associatifs, ce sont des avocats, des directeurs de publication. Et on a fait une petite moyenne, on se rend compte que ça fait en moyenne une personne attaquée tous les 2 mois par Bolloré ou un de ses partenaires commerciaux. C'est une personne attaquée tous les 2 mois, c'est à notre sens le recordman des procès de presse, et on a voulu le mettre en exergue par cette tribune.
Et vous parlez donc de poursuites Bayon. D'ailleurs, vous faites remarquer qu'il ne donne pas suite à toutes ces poursuites, c'est-à-dire qu'il y a justement des plaintes qui s'arrêtent juste avant les tribunaux. Mais le mal est fait, finalement, l'intimidation, la pression sur les journalistes et les frais de justice.
Exactement, c'est pour ça qu'on a voulu, en fait, on l'a fait de manière assez précise, sobre et chirurgicale, c'est-à-dire qu'on a mis de manière assez simple on a recensé de manière assez simple toutes ces procédures judiciaires en cours et passées, et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, quasiment tout le temps, Vincent Bolloré perd quand il va jusqu'au bout, et encore plus souvent, Vincent Bolloré retire sa plainte juste avant le procès, c'est-à-dire que effectivement, ça génère des frais de justice, on a des journalistes pigistes qui ont payé des frais d'avocat pour essayer de faire venir des témoins d'Afrique, etc. Ce sont des choses qui demandent énormément de moyens. Ça permet à Vincent Bolloré de communiquer en expliquant qu'il a été diffamé et que tout ce qui a été raconté par les journalistes était complètement faux. Et au final, même si les tribunaux lui donneront tort à la fin, il décide de retirer sa plainte, ce qui lui permet d'avoir pu profiter de cet effet d'annonce. Il faut bien remarquer dans cette liste qui est vraiment hallucinante, et j'invite tous nos auditeurs à aller la regarder, c'est qu'absolument toutes ces procédures judiciaires intentées par Bolloré et ses partenaires commerciaux concerne ses activités en Afrique, qu'il s'agisse des plantations d'huile de palme ou alors des conditions parfois compliquées dans lesquelles il peut obtenir des marchés publics en Afrique. Et voilà, ça prouve bien que Vincent Bolloré a un vrai problème avec le traitement journalistique de ses activités en Afrique.
Je vous remercie Tristan Valex. Je vais donner la parole à Daniel Schneiderman qui souhaitait réagir. Daniel Schneiderman.
Bah oui, parce que sur ce cas particulier qu'on connaît bien sur Arrêt sur Image, puisqu'on a bien suivi toutes les poursuites de Bolloré, on a reçu plusieurs fois Tristan Valex, qui est un excellent journaliste, qui fait un excellent boulot. On a reçu aussi Jean-Baptiste Rivoire qui a raconté comment Bolloré avait censuré les émissions d'investigation de Canal+ quand il est arrivé. Bon, on est fréquemment, vous l'avez rappelé, sur Arrêt sur Image, on est fréquemment quand même assez critique sur les médias et sur les discours médiatiques, sur les récits médiatiques. Mais alors là, sur ce coup-là, solidarité totale, quoi. L'intimidation permanente que pratique Bolloré par rapport à quiconque s'intéresse à ses affaires africaines est tout à fait scandaleuse. Elle est dissuasive, évidemment, Walex l'a rappelé, elle est dissuasive pour les journalistes, et ce type de poursuite d'intimidation, si vous voulez, c'est-à-dire la poursuite qui n'a aucune chance de gagner, en fait, qui est de la pure intimidation, j'en suis d'autant plus solidaire que la semaine dernière encore, moi-même, j'étais devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, vous l'avez peut-être vu, et dans un cas de figure presque encore pire, puisqu'on n'était pas poursuivi par Bolloré, on était poursuivi par le directeur du Point, Étienne Jernel, et une de ses anciennes journalistes, Mireille Duteil, pour une couverture qu'on avait faite de ce qu'on a appelé les Maroc Leaks, c'est-à-dire une affaire de fuite au Maroc qui avait révélé qu'un certain nombre de journalistes français étaient plus ou moins achetés par le palais marocain et la royauté marocaine. Bon, le procès a eu lieu. Moi, j'estime que l'accusation s'est effondrée à l'audience.
Alors, mais ça, enfin, c'est votre estimation. On va attendre le jugement. Quand même.
C'est pas que la mienne, parce que même la procureure. Non, mais même la procureure à l'audience a dit: je sais pas très bien si je dois plaider la bonne foi d'Arrêt sur Image ou l'absence totale de diffamation. J'hésite entre les deux.
Alors, si vous voulez, attendons le jugement et on en reparlera avec plaisir.
Avec plaisir, voilà. Donc solidarité totale pour ces poursuites qui
et alors,
de
je précise également, Daniel Schneiderman et Tristan Walex, que Nicolas Vescovacci et Jean-Pierre Canet, qui sont réalisateurs et producteurs de l'enquête sur le Crédit Mutuel qui avait été censurée par Canal+, il y a deux ans, vont publier la semaine prochaine un livre, Vincent Tout-Puissant. Le sous-titre, c'est l'enquête que Bolloré a voulu empêcher. Ce sera chez JC Lattès. Merci beaucoup, Tristan Walex. À suivre, donc.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Daniel Schneiderman, donc fondateur du site Arrêt sur Image, je me suis demandé, plus d'émissions médias à la télévision, à proprement parler, et pourtant, inflation d'invités médias dans les talk-shows quotidiens, c'est à vous, Hanouna tous les jours, Ardisson, Ruquier le week-end, la télé parle de la télé, ça c'est pas nouveau, mais il y a quand même...
Chez Sonia De Villers.
Oui, chez Sonia De Villers à la radio.
Tous les jours,
mais enfin, on parle pas que de la télé, mais la télé ne fait pas que ça, elle commente aussi l'actualité médiatique. Et d'ailleurs, la question de la com et de la mise en scène médiatique, je le disais tout à l'heure en lancement, c'est devenu quasiment l'archétype du commentaire. Les journalistes politiques sont obsédés par ça. Et même dans le sport, on se demande, on passe un week-end entier à se demander si la com du joueur Neymar est bonne ou est mauvaise. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Bah, que vous avez raison, qu'il y a effectivement une double inflation de la critique média, en fait, ou de la vraie ou fausse critique média, on pourra en parler si vous voulez.
Absolument.
Il y a celle qui se déroule à flux continu sur les médias mainstream, vous venez de le dire. Et puis, il y a l'autre... Il y a la critique média sur les réseaux sociaux, alors là, qui est tout aussi inflationniste, tout aussi permanente, je veux dire, les tweets, Facebook, etc., c'est partout. Bon, alors évidemment, on peut se poser la question que vous avez posée au début de l'émission, qui est une vraie question, finalement, quelle place y reste pour un site de critique média indépendant comme nous, dans tout ce charivari. J'ai envie de dire, la place qui nous reste, c'est peut-être la place de ceux qui sont à la fois totalement indépendants, puisque Arrêt sur Image n'appartient pas à un milliardaire, n'a aucune participation de milliardaire et n'est financé que par ses abonnements, que par ses abonnés, 100% du financement c'est les abonnements, et en même temps qui essaye d'être un site professionnel, qui est fait par des journalistes professionnels avec des cartes de presse. Si vous voulez tenir les deux bouts de la ficelle en même temps, c'est-à-dire l'indépendance totale de dire ce qu'on veut, sur qui on veut, quand on veut, sans problème, et en même temps...
Donc une nouvelle concurrence est apparue dans le paysage médiatique d'Hélène Schneiderman sur ce sujet. Les Jours, site aussi totalement indépendant, fondé d'ailleurs par deux anciens journalistes médias de Libération, Arrêt sur Image, y a vous, il y a Mediapart, Laurent Monduit continue sa critique et sa réflexion sur les médias, il n'est pas le seul là-bas. Il y a Le Média, fondé par Sophia Chikirou et d'autres, qui s'est lancé il y a 15 jours. Il y a Acrimed, il y a Le Canard Enchaîné, qui continue aussi à dévoiler des choses. La vraie question, c'est comment pouvez-vous faire la différence? Puisque quand on lit Arrêt sur Image, on sent bien qu'on n'a plus besoin de vous, par exemple, pour dénoncer ou pour dévoiler une tromperie médiatique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous. Pour ça, ça se fait en temps réel sur les réseaux sociaux.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, tiens, pas plus tard que ce matin, on a mis en ligne une enquête sur Presstalis.
Presstalis, c'est le grand diffuseur
Le grand diffuseur de presse qui, vous le savez,
Est
en train de s'effondrer, ça on verra. Mais en tout cas, a pris une décision radicale il y a quelques semaines, en prélevant 25% des recettes des journaux, si vous voulez, pour essayer de sauver sa peau. Bon, les petits et les gros journaux. Est-ce que vous pensez sérieusement que la plupart des journaux ont la liberté intellectuelle nécessaire pour traiter de cette affaire Presstalis en toute sérénité, et peuvent dire, eux qui sont distribués par Presstalis, eux qui siègent au conseil d'administration de Presstalis, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire des articles objectifs sur Presstalis? Bon, sur Presstalis, nous on est totalement libre, on est sur Internet.
Et vous dites, les gros journaux sont en train d'assassiner les petits, exactement ce que l'Instant M vous a expliqué il y a 3 semaines, tant mieux.
Avec un point d'interrogation, parce qu'on est plus prudent que vous, et on a essayé de faire, je voudrais pas... c'était parfait ce que vous avez fait, hein. Mais voilà, il y a même des petits journaux qui disent que c'est plus compliqué que ça. Donc, liberté intellectuelle totale. Alors maintenant, oui, il y a de la concurrence. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Mais j'ai envie de répéter indépendance. Vous avez cité Le Média. On va voir ce que fera Le Média. C'est très bien, Le Média. Moi, je suis pour que des nouveaux médias apparaissent. Je suis très enthousiaste à chaque fois qu'un nouveau média apparaisse avec une proclamation d'indépendance. Bon, alors après, il m'a semblé quand même que ce nouveau média était relativement intellectuel, proche d'un mouvement politique.
La France Insoumise.
Même si, bien entendu, il n'y a aucun rapport et ils ont une indépendance totale. Mais voilà, il m'a semblé que intellectuellement...
Vous n'êtes pas sans ancrage idéologique non plus, Daniel Schneiderman, reconnaissez-le.
En tout cas, ça fait 4 ans qu'on n'a pas invité Mélenchon, il ne veut plus venir.
Il ne veut plus. Ça nous fait un point commun, pour une fois, vous avez un point commun avec France Inter.
Ça ne fait pas 4 ans qu'on ne l'a pas invité, ça fait 4 ans qu'il n'est pas venu.
Alors, je vous rappelle ce générique bien connu, 1995. C'était Arrêt sur Image, c'était la télévision, c'était la cinquième.
On a gardé le même générique.
Oui, mais ça, c'était à la télévision à l'époque. On a été le chercher dans les archives de la chaîne.
Vous auriez pu le trouver sur le site.
C'était avant que les Français ne se servent d'Internet. C'était avant qu'il y ait finalement ce cinquième pouvoir, cette espèce de fact-checking en temps réel. Vous avez appris aux téléspectateurs français les codes du montage, l'influence du cadrage, les ficelles du casting, des témoignages. Vous avez pointé les bidonnages. Vous avez déboulonné la grand-messe du 20h, puisque vous vous attaquiez régulièrement à ces sujets. Est-ce que vous pensez avoir été un des facteurs de cette méfiance qu'on mesure chaque année aujourd'hui en France des citoyens vis-à-vis des médias?
Vous savez, il y a toujours plusieurs façons de dire les choses. Vous dites méfiance, c'est pas un joli mot. Donc tout de suite, ça fait complotisme, etc. La vérité est ailleurs. On pourrait aussi parler de doute. Moi, j'aime mieux parler de doute. Vous voyez, alors on peut dire que c'est à peu près la même chose, encore que philosophiquement, il y a des petites différences quand même entre le doute et la méfiance. Mais oui. Oui, bien sûr, qu'on a appris aux gens à regarder autrement les récits médiatiques. On a peut-être, alors je sais pas, enfin on a appris, c'est très... Voilà, en tout cas, on a essayé d'accréditer l'idée qu'un récit médiatique, c'est-à-dire une émission, un article, un titre de journal, une hiérarchie de l'info dans un JT, ne tombait pas du ciel, mais que c'était toujours une construction intellectuelle, économique, qui avait été édifié par des journalistes pour des raisons qui sont multiples, hein, des raisons idéologiques parce qu'ils pensent ceci ou ils pensent cela, pour des raisons économiques parce qu'il y a la concurrence et il faut attirer le lectorat, il faut faire cliquer, il faut faire regarder, etc. Pour des raisons sociologiques, pour toutes sortes de raisons, l'actualité n'est pas une entité immanente qui tombe du ciel. Donc on a appris aux gens, on a essayé de faire entrer cette idée dans l'opinion générale.
Ce type de réflexion.
Alors après, si vous me dites, vous êtes les horribles démolisseurs qui ont contribué à...
Je ne vous dis pas ça, je me pose la question finalement de tout ce que cette éducation qui s'est beaucoup démocratisée a pu produire aussi comme effet. J'imagine que c'est une réflexion que vous menez aussi, ouais, Daniel Generman.
Mais vous pensez qu'il n'aurait pas le fait?
Non, pas du tout. C'était la question que
faire,
je...
Il aurait fallu le faire autrement
Non, c'est la question que je me posais.
Si vous voulez, je pense qu'en effet, on est aujourd'hui dans une période de chamboulement et de recomposition complète. Le paysage d'aujourd'hui, si vous voulez, le paysage d'information n'a plus rien à voir avec le paysage de 95 quand on a commencé à Arrêt sur Image. Mais j'ai envie de vous dire, l'information morcelée, fragmentée, incertaine des réseaux sociaux ne me satisfait pas plus que l'information monolithique de la belle époque de PPDA où PPDA disait la messe. Voilà, ça ne me satisfait pas plus. D'ailleurs, sur Arrêt sur Image, je veux dire, quand on dit on déconstruit le récit médiatique, on essaye de déconstruire aussi bien le récit mainstream que le récit des...
Alors justement, ça reste votre spécificité, et pour cela, elle n'est pas si partagée que ça.
Laquelle ?
Cette spécificité de déconstruire, en tout cas, les dispositifs médiatiques. Vous continuez à en faire, à creuser ce sillon-là. On écoute le lancement du média dont on vient de parler.
Nous sommes le 23 janvier 2018, le 20h. C'est échappé de la télé, vous regardez le journal du Média. Bonsoir à tous.
Le 20h s'est échappé de la télé. Bref. Vous dites, c'est incroyable de voir un média alternatif critique sur les médias qui se soumet ainsi à un dispositif traditionnel qui est la grand-messe du média. Vous dites que d'ailleurs, c'est mal fichu, c'est mal ficelé, mais ça, on l'a tous constaté, c'est leur début, on verra comment ils vont progresser. Puis là, d'un seul coup, vous dites, il y a un visage familier d'LCI qui arrive.
Catherine Kerpak.
Et là, on se dit, catastrophe, ce savoir-faire de la télé, quand est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser?
C'est horrible, hein? Je suis le premier affligé. Hein. Je suis le premier affligé, mais on est obligé de reconnaître, si vous voulez, que présenter un journal télévisé, présenter une émission de radio,
Ça demande un savoir-faire.
Bah ouais, c'est un savoir-faire. Voilà. Donc on peut pas nier ça, si vous voulez. On peut pas nier qu'il y a effectivement un savoir-faire. Et simplement, moi, je pense que oui, il faut maîtriser un certain nombre de techniques de ce savoir-faire pour pouvoir ensuite en sortir, pour pouvoir ensuite les déconstruire.
Et là, on est face à des gens qui ne les maîtrisent pas si bien que ça, manifestement.
Pour pouvoir ensuite faire autrement. Je veux dire, pour reprendre un exemple, tarte à la crème, si Picasso n'avait pas su faire des nus académiques, si vous voulez, il n'aurait pas été Picasso par la suite. Donc, il faut connaître un peu pour ensuite arriver à dépasser.
Ce qui est intéressant, c'est que vous proposez, pardonnez-moi, une contre-proposition, un média alternatif et tout. Vous faites quoi sur Arrêt sur Image? Une émission de télévision hebdomadaire autour d'un plateau avec des écrans derrière qui montrent les séquences et les images, et puis vous publiez des papiers qui pourraient tout à fait être publiés dans la presse. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de différence entre les chroniques que vous publiez dans Libération et les chroniques que vous publiez sur votre site.
Donc finalement, vous n'avez rien réinventé du dispositif
médiatique, Daniel Generman.
Je dis peut-être un peu plus « je » dans les chroniques que je publie sur Arrêt sur Image. Vous voyez, il y a plus un côté blogueur en peignoir de bain, quoi, que je ne me permets pas trop dans Libé. Et encore, c'est rien par rapport à ce que c'était au Monde, si vous voulez. Au Monde, jamais j'aurais pu écrire « je » au Monde. Au Monde, on n'écrit pas « je », c'est une obscénité. Pendant 20 ans, j'ai écrit « on », qui était une espèce de faux semblant, un code absurde, parce qu'il n'y a pas « on », c'est « je ». Bon, alors après, si vous voulez, je crois que les contraintes et les formats, faut en prendre et en laisser. Par exemple, la contrainte qu'on a vraiment jetée aux orties quand on est arrivé sur Internet en provenance de la télé, c'est la durée.
Oui.
Je veux dire, la télé ou la radio, et vous le savez bien, c'est formaté, il va falloir rendre l'antenne à une heure précise, on le sait déjà tous les deux, à 5 secondes près, parce que si vous rendez 5 secondes trop tard, vous faites gronder. Bon, quand on arrive sur Internet, cette contrainte-là, elle disparaît. C'est ce qui fait que vous dites l'émission, c'est la même que la télé. Pas tout à fait quand même, parce que je veux dire, avoir la possibilité de choisir entre une émission, on va dire, d'une heure ou de deux heures, ou même de deux heures et demie, ce qui doit être notre record, parce qu'on avait vraiment des choses super intéressantes à dire ce jour-là, ça change quand même un tout petit peu les choses. Sonia De Villers, si on pouvait faire ensemble la durée qu'on souhaiterait faire, une heure et demie, deux heures.
Trois heures pour Daniel Generman, bien
heures,
entendu.
Quelle belle émission nous ferions,
vous appuyez sur ce que vous revendiquez ouais. comme votre différence, c'est-à-dire l'indépendance. Vous n'en êtes pas moins chroniqueur hebdomadaire à Libération depuis très longtemps, et sans doute pour encore très longtemps. Libération qui appartient à un milliardaire, Patrick Drahi, qui vous laisse une liberté totale. Liberté d'écrire tout ce que vous voulez. Ou alors vous cautionnez un système que vous dénoncez par ailleurs, il y a un problème. Donc,
je choisis la solution 1.
Voilà, liberté totale.
Bah oui, oui.
Liberté
oui,
totale.
Oui.
Donc finalement, le gage de l'indépendance n'est oui. pas forcément le gage de la qualité dans la critique qu'on fait des médias. Vous pouvez faire la même dans un média qui appartient à un grand groupe sans aucun problème.
Alors, je voudrais pas me la jouer, mais enfin, je veux dire, j'ai une espèce d'antériorité qui fait qu'il est peut-être plus compliqué aujourd'hui de me censurer un papier, si vous voulez.
Que Daniel Schneiderman est intouchable.
Non, mais je veux dire, voilà, si vous voulez, je pense que les gens doivent se dire, ah ouais, si on lui touche une virgule, ça va être compliqué. Quoi.
Bon, donc, vous voilà. avez entendu les bips, c'est la fin de l'émission. Nous ben sommes voilà. contraints par les formats.
C'est QFD.
Merci beaucoup Daniel Schneiderman. Allez voir la nouvelle version donc d'Arrêt sur l'image sur le site et puis continuez à lire ses chroniques dans Libération. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors,
quel avenir,
robots.
Voilà, quel avenir pour les robots dans notre vie de tous les jours, des robots de compagnie présents par exemple dans les maisons de retraite ou auprès d'enfants autistes. 01 45 24 7000.